Bonjour à toutes, bonjour à tous. Traverse, le magazine de l'actualité culturelle en Villeneuve, une émission enregistrée au Centre culturel de Villeneuve-sur-Lot avec à la technique Michel Dariot et David Bouger. Une émission préparée et présentée aujourd'hui par Bérangère Amazuri, qu'on est ravis de retrouver. Bonjour Bérangère.
Bonjour.
Tony Feggio qui va nous parler de musique.
Bonjour.
Et avec un musicien aussi hors pair.
Voilà.
Une petite, et notre petit dernier, mais Michel Moyer, mais qui est derrière la caméra, parce que nous allons innover dans l'année 2020 et on va vous proposer des morceaux choisis sur les réseaux sociaux de l'émission Traverse à laquelle vous êtes très attachés. Nos invités aujourd'hui, on va parler de culture avec le musée de Gajac, avec Marlise Courrèges, qui est la responsable du musée. Bonjour Marlise.
Bonjour.
Pour une exposition qui se termine et qui a connu un très très grand succès, elle viendra nous en parler. Et on va fêter un anniversaire au musée. Et puis on a le très grand bonheur d'accueillir un groupe, le groupe d'astronomie de Montayral, avec son président Pierre Vallat et puis Olivier Sabag. Ils vont nous parler de leur actualité et des exoplanètes, parce qu'il paraît qu'il y a des nouveautés qui ont lieu dans ce domaine-là.
Absolument.
Et puis bien sûr, Noël, jour de l'an approche, moment des cadeaux. Deux invités pour nous faire rêver. Pierre Vallat, qui est président du groupe astronomique, on dit populaire, de Montayral.
Populaire, oui, de Montayral, bonjour.
Bonjour. Et puis, en même temps, bon, Montayral, c'est pas très loin.
Non,
on va aller encore
joli.
Plus loin.
Et c'est très joli.
Et ensuite, Olivier Sabag. Bonjour, Olivier.
Bonjour.
Là aussi, un des piliers, aussi, on peut dire, de ce groupe astronomique.
Le trésorier, c'est toujours un pilier.
Alors, qu'est-ce qu'on y fait, Pierre Vallat, ce pôle
oui.
de Montayral.
Qu'est-ce qu'on fait? Au mois de décembre 2019, on n'a pas fait grand-chose vu la météo, mais on a quand même toujours beaucoup d'activités annexes, d'entretien, de discussion, de recherche, de mise au point, même si les visiteurs se sont fait un peu rares et les observations encore plus rares.
Oui, mais il faut dire que vous avez quand même connu une année 2019 qui a été particulièrement riche.
Oui, certainement.
Comme les autres,
déjà, oui, c'est ce que j'allais dire un petit peu. Il se passe toujours quelque chose là-haut, de plus ou moins près, plus ou moins loin, mais il y a toujours des choses extraordinaires et de plus en plus extraordinaires parce qu'on a des moyens de plus en plus remarquables.
Moi, ce qui m'intéresserait, c'est quelles recherches vous faites à travers là et pourquoi les choses climatiques vous empêchent de continuer. C'est intéressant de savoir.
Oui. Alors, on va régler l'aspect climatique
la
des choses.
Voilà.
Il y a les nuages.
Voilà, c'est ça.
Voilà, on est très bien équipé, mais pas équipé au point d'arriver à percer les nuages. Il y a des sites d'observation astronomique qui ont ces moyens-là. Hein. Radio-astronomie, ça perce les nuages. Mais bon, on n'en est pas encore là, au gap.
D'accord.
47 ans.
Et quel est le travail de votre recherche?
Alors, c'est moins un travail de recherche que, d'abord, un travail de plaisir. Le plaisir
ça, c'est
d'observer, le plaisir personnel ou le plaisir de groupe, observer et faire des choses, hein, construire du matériel. Mais sinon, l'aspect le plus développé du GAP depuis sa création d'ailleurs, et s'il s'appelle populaire, c'est pas pour rien, c'est le partage de la découverte du ciel et de le partage scientifique.
Et si vous deviez donner envie au public, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas peut-être ce lieu-là, et quelle est la chose pour leur donner envie de venir pour découvrir le ciel et un peu s'évader un peu de notre monde et de notre société un peu tumultueuse?
Mais c'est peut-être de leur dire qu'ils ont vu certainement à la télé, dans des magazines, etc., d'admirables photos du ciel et des objets qui traînent dans le ciel. Hein, Saturne, on a vu des photos fantastiques, hein, des nébuleuses lointaines, des photos absolument remarquables avec des satellites qui tournent autour de la Terre et qui sont libérés des contraintes de l'atmosphère. Mais voir les choses en direct, en vrai, Chaque visiteur qui vient nous rendre visite pendant l'été, pendant l'année, puisque tous les vendredis soirs on est ouvert au public, ils sont quand même frappés justement par le fait que... Ah, je peux moi-même le voir en direct.
Mais alors là, vous prêchez un convaincu parce que c'est la première fois que j'ai été au Pic du Midi. J'ai pu observer et je me suis régalé. Donc je pense que souvent, on se dit, oh, on va voir une étoile, deux étoiles. Mais au contraire, on voit plein de choses. Et puis quand il y a des personnes qui arrivent un peu à nous expliquer comment le ciel est fait, qu'est-ce que c'est qu'il y passe dans le ciel. Et ça, ça peut être très enrichissant. Et je pense que le public, c'est ce qu'il faut qu'ils aillent voir, parce qu'à travers ça, on arrive à s'évader.
Et puis s'apercevoir que le Pic du Midi, c'est très bien.
Oui.
Mais à Montréal, c'est également très bien.
C'est pour ça. Voilà. Et bien, c'est pour ça que je dis que, moi, je sais que je viendrai voir parce que j'ai trouvé cette vision fabuleuse.
Oui, oui. Je ne suis jamais allé au Pic du Midi. Voilà. Donc, je peux parler de Montréal en connaissance de
cause. Eh bien, on y viendra.
Mais je vais bientôt aller au Pic du Midi.
D'accord.
Alors Pierre Vallat, le président, n'est pas venu seul, il est venu dans la compagnie de son trésorier, mais qui est aussi finalement un fanat d'astronomie, Olivier Sabag. Rebonjour.
Rebonjour.
Alors vous avez, vous, souhaité mettre l'accent sur les exoplanètes.
Oui, alors je vais définir très rapidement ce qu'est une exoplanète. C'est une planète qui tourne autour d'une étoile qui n'est pas le Soleil. Donc on a découvert des planètes qui tournent autour d'autres étoiles, on appelle ça des exoplanètes. La première a été découverte en 1995 et on en est à plus de 4150 aujourd'hui.
Oh, pou.
Certifiés, parce qu'on est à peu près à 7000, mais il y en a qui sont encore un peu dans le doute, on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, 4150 sont certifiés. Certaines vivent dans des systèmes multiplanétaires, c'est-à-dire où il y a plusieurs planètes autour d'une étoile. D'autres n'en ont qu'une et d'autres n'en ont pas du tout. Parce que... Donc voilà. Dans notre galaxie, il faut bien savoir qu'on a environ 200 milliards d'étoiles. Et ça, ce n'est que dans notre galaxie. Et quand on sait qu'il y a 200 à 400 milliards de galaxies dans l'univers connu, on se représente la capacité...
On ne se représente pas.
Non, c'est des chiffres qui
n'est pas... On ne peut pas se représenter.
Non, c'est
vrai que
c'est tellement... on va faire sur le moment... Oh, mais si on doit l'analyser, on n'arrive pas à le...
Ah oui, non, c'est vertigineux. C'est vertigineux. Ouais. Et ça nous donne un peu l'obligation d'avoir une certaine modestie parce qu'on est une petite planète autour d'une petite étoile au milieu d'un univers qui est incroyablement grand. Donc c'est aussi une des leçons de l'astronomie. Alors l'astronomie, ça évolue à une vitesse folle avec les progrès technologiques. Je veux dire, il y a 100 ans, on ne savait pas un millième de ce qu'on sait aujourd'hui. Donc on en découvre tous les jours. On y met aussi les moyens. Et ces moyens sont de plus en plus internationaux parce que les budgets sont assez faramineux. Donc voilà. Alors oui, je voulais parler des exoplanètes parce qu'il y a deux jours, l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle l'ESA, a envoyé un satellite qui s'appelle Kéops, qui va étudier les exoplanètes. Alors, il ne va pas spécialement chercher à en découvrir de nouvelles, parce qu'on en a déjà, on a déjà de la matière avec plus de 4000 exoplanètes. Mais il va essayer d'approfondir la connaissance qu'on a de celles qu'on a déjà trouvées. Donc, ils vont essayer, avec ce satellite qui sera envoyé très, 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 très loin dans l'espace, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, de pouvoir regarder le ciel dans les meilleures conditions avec des moyens d'analyse de plus en plus précis. Et donc, grâce à ça, on va essayer de définir quelle est la nature physique et chimique de ces planètes, de connaître leur taille et leur masse, et... Le graal suprême dans cette quête-là, c'est de trouver des planètes qui sont en zone habitable.
Alors, il y en aurait.
Il y en a.
Il y en a.
Alors, zone habitable ne veut pas dire zone habitée, comprenons-nous bien.
On est déçus quand même. Oui. Les petits hommes verts, on n'avait
pas. Alors, ça pose d'autres problèmes. Mais en tout cas, zone habitable, ça veut dire... Puisqu'on rapporte beaucoup de choses à nous-mêmes, on prend comme modèle la Terre. Et donc on dit que pour qu'une planète soit habitable, théoriquement, selon la manière dont nous envisageons ce qu'est la vie, il faut qu'il y ait de l'eau liquide à sa surface. C'est l'une des obligations, des axes de recherche de ces planètes. Donc si une planète est très très près de son étoile, elle va être chauffée énormément, et l'eau liquide, s'il y en avait, elle sera vaporisée. Mmh. Si elle est trop loin de son étoile, elle sera gelée. Donc il faut trouver une bonne échelle de distance entre l'étoile et sa planète, et qui plus est, ça dépend de la taille des étoiles, parce que les étoiles ont des tailles totalement différentes. Par exemple, le Soleil, c'est une petite étoile à l'échelle de l'univers, mais si vous prenez Bételgeuse, qui est une étoile qu'on voit dans la constellation d'Orion, elle fait 1250 fois la taille du Soleil. Donc, si on était à la même distance de cette étoile que la Terre l'est du Soleil, on serait cramé depuis longtemps.
Voilà. Hein, donc, voilà. Donc, ça veut dire où il y a cette étoile, il n'y a pas de vie.
Non, parce qu'effectivement, d'ailleurs, Hubert Reeve avait écrit un magnifique livre qui s'appelle Poussière d'étoiles. Ouais. Et on est tous des fils des étoiles. Parce qu'en fait, tous les éléments qui sont dans une étoile, en tout cas les très très grosses, quand elles explosent, elles libèrent tous les éléments qu'on peut trouver sur la Terre.
C'est fabuleux.
Ça passe du cuivre
c'est
à l'or.
Fantastique, hein. C'est fantastique. C'est ça qui est...
Il y avait cette phrase, mais pour compléter ce que vient de dire Olivier, dans Patience dans l'azur, je crois que c'était, Hubert Reeves qui disait « Nous portons sous nos pieds de la poussière d'étoiles ».
Oui, tout à fait.
C'était beau. Non,
mais... Absolument. Mais je pense que tout individu qui n'a pas rêvé à un moment de dire « Ah, j'aimerais aller ou décrocher la Lune ou aller sur...
Oui. Ouais. Alors, le problème de trouver une planète habitée et non pas habitable, c'est pas de mal à veille parce qu'elles sont quand même très très loin, ces planètes, parce que les étoiles autour duquel elles tournent sont assez lointaines, même si on recherche surtout celles qui sont le plus proches de nous et qui font partie de la Voie lactée, parce que c'est notre galaxie, donc c'est plus près. Le problème, c'est un problème de la concordance des temps. Par exemple, l'étoile la plus proche du Soleil, qui s'appelle Proxima du Centaure, qu'on peut voir dans l'hémisphère sud, elle est à 4 années-lumière et demie. C'est-à-dire que la lumière met 4 ans et demi pour nous arriver. Cette étoile a une planète, d'ailleurs, en l'occurrence, qui est en zone habitable. Mais si on voulait aller là-bas avec les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire les sondes et les satellites qu'on sait fabriquer, il faut entre 60 et 70 000 ans pour y arriver.
Wow!
Donc,
mais on n'est pas prêt d'aller habiter là-bas.
En admettant qu'il y a quelqu'un là-bas, on envoie un message.
Temps que le message arrive,
il met 4 ans et demi pour arriver. Bon, en admettant que quelqu'un là-bas puisse comprendre notre message,
puis nous répondre.
C'est pas gagné.
Et nous répondre.
Et il répond, il faut à nouveau 4 ans et demi. Donc la discussion va pas être facile.
Mais c'est fabuleux. Je trouve que c'est fantastique.
Et en plus, il y a un problème de concordance du temps. Je veux dire, sur une planète lambda, il y a peut-être une vie, il y a peut-être eu une vie qui a disparu, ou il y aura peut-être au futur une vie qui n'est pas encore apparue. Maintenant, la vie, elle a quel contour ? On ne sait pas. Il peut y avoir simplement des bactéries, des choses comme ça, etc. Ce serait déjà fabuleux de trouver des bactéries quelque part. Ça, on peut en chercher dans le système solaire. On sait qu'il n'y a pas de vie ailleurs que sur la Terre dans le système solaire. Mais les planètes ne sont pas favorables à héberger de la vie telle qu'on le connaît, telle qu'on le sait même aujourd'hui. Je peux affirmer qu'on le sait. Donc voilà, mais par contre sur certains satellites de certaines planètes, notamment des satellites de Jupiter et de Saturne, il est possible, puisqu'on a découvert qu'il y avait des océans sous-marins, sous la glace, et qu'il peut y avoir de la vie dans cet univers liquide, enfin la vie... Je ne parle pas des
plus
petits hommes
animal, verts. Alors.
Je parle d'une vie même végétale ou bactérienne.
Oui. D'accord.
C'est possible. D'accord. Et ça fait l'objet de recherches et ça fera l'objet de dans les années 2030, 2040, 2050, il y aura certainement des envois de sondes sur ces satellites pour essayer de forer et de trouver une trace de vie. Pourquoi pas ?
J'ajouterais juste une chose.
Allez-y.
Ces distances telles qu'elles sont présentées là, c'est peut-être la raison majeure pour laquelle on a intérêt à préserver notre Terre.
Ah mais absolument,
oui, parce qu'on n'en sortira jamais. Ouais.
Non, il n'y a pas de plan B pour la Terre.
Oui. Et c'est quoi qui vous a passionné d'aller plus vers ce côté-là de ces recherches
Je me suis toujours intéressé à l'astronomie personnellement, mais comme ça, un peu de loin, etc. J'ai vécu quelques temps aux États-Unis, j'avais acheté un télescope là-bas. J'étais basique, on va dire. Et il y a 6 ans maintenant, que j'appartiens au GAP 47 et j'ai multiplié mes connaissances par 1 million depuis, donc c'est fabuleux. Et plus on découvre de choses, plus on soulève de questions. auquel il faut également répondre. C'est une quête sans fin. Et alors surtout en ce moment où la science va à une vitesse fabuleuse, et notamment en astronomie, on découvre des trucs qui sont invraisemblables.
Mais c'est très très intéressant de vous écouter. Je dis aux auditeurs, il faut aller à Monteiral. Parce que ça doit être très enrichissant d'écouter vos commentaires. Alors, à Monteiral, où exactement ?
Alors, on a un observatoire.
Oui.
Hein, on n'est pas un tout petit club. On a depuis 35 ans que le club s'est formé. Il a évolué. Donc, on a un observatoire avec une salle d'accueil du public, etc. Et on est situé, en gros, à côté de l'aérodrome. À 400 mètres de l'aérodrome.
D'accord. Ça paraît normal.
Voilà. C'est pas encore un cosmodrome, mais on a des visées là-dessus.
D'accord.
Et puis nous, vous reviendrez nous en parler.
Ah oui, parce que c'est
régulièrement.
C'est très très intéressant et je trouve que voilà, c'est bien que Traverse aussi puisse donner la parole à ce genre de.
Et à tous. Et puis quant à nous, on se retrouvera l'année prochaine. Voilà. On remercie à la technique Michel Dario. Et on salue encore une fois Marlys Courrèges et puis nos amis du groupe astronomique populaire de Monteiral qui reviendront bientôt nous faire rêver. Nous, on va se laisser guider par le rêve de Yann.
Oui, et...